Nom de rue, maison célèbre, maison musée, Paris a célébré ses écrivains et ceux-ci l'ont encensé. Paris, ville, monde, chanté, clamé, adulé à la fois décor et personnage, ajouté deux lettres à Paris et c'est le paradis, Jules Renard. Paris, capitale de la littérature, la légende est tenace et comme pour le vérifier, Olivier Chaudançon a créé, voilà un peu plus de 10 ans, le festival Paris en toutes lettres qui, après une édition numérique, peut de nouveau se dérouler cet automne en vrai. Bonjour Olivier Chaudançon.
Bonjour.
La littérature demande cette présence des corps?
Je pense, de plus en plus, c'est une façon aussi d'aller vers un public qui est moins coutumier du livre, sans exclure celui qui est déjà à l'aise avec le livre, mais voilà, c'est montrer l'auteur, inventer des formes artistiques vivantes, faire monter le livre sur scène.
Avec l'idée de l'hybridation des formes et des genres.
Oui, ça c'est vraiment l'identité du festival, on aime bien mélanger, alors souvent littérature et musique, mais parfois d'autres choses, des promenades littéraires, on aura même une conférence broutée, donc vous voyez qu'on va très très loin dans les mélanges.
Mais donc il y a un côté expérimental dans ce festival Paris en toutes lettres, c'est le contraire d'un salon du livre par exemple.
Oui, c'est le contraire d'un salon du livre. Il y a une programmation préparée, des auteurs choisis, des textes sélectionnés, un travail sur la forme. Il ne s'agit pas de dire tout, il s'agit d'inventer encore une fois des formes artistiques à partir de la littérature, de son actualité, mais aussi parfois de son patrimoine d'ailleurs.
Alors avant de parler de cette édition, avec notamment Olivier Arlambon qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Rapide retour en arrière, pourquoi Olivier Chaudançon avoir créé Paris en toutes lettres en 2009?
C'était à la demande de la ville de Paris, qui avait constaté qu'en effet, étonnamment, il n'y avait pas d'événement littéraire à Paris. Il y a un salon du livre, mais c'est un salon, c'est très spécifique. Il n'y avait pas de festival littéraire, et c'est vrai que la ville de Paris a regardé un petit peu ce qui se passait en France. Ils sont passés par Manosque, qui ont remarqué les correspondances de Manosque, dont je m'occupe, ont été séduits par la forme et m'ont demandé de leur proposer un projet. Voilà, c'est né sous l'égide de la ville de Paris.
Et les choses ont évolué en 10 ans?
Ah, pour nous, beaucoup, parce qu'à l'origine, c'était un peu partout dans Paris. Et puis, il y a eu la crise financière, des réductions de budget. Entre-temps, moi, j'avais entrepris la ville sous un angle qui était de dire « Formidable ce festival, mais peut-être qu'à Paris, il faudrait un lieu permanent pour la littérature ». J'ai eu gain de cause, puisque depuis quelques années, je dirige la Maison de la Poésie Scène Littéraire. Voilà. Et lorsque j'ai pris cette direction, ça m'a permis de redémarrer le festival Paris en toutes lettres, qui est devenu le festival de la Maison de la Poésie. Plus petit qu'auparavant, pas dans tout Paris, mais avec un vrai quartier général, ce qui est plus confortable et plus pilotable pour un festival.
Et vous confirmez que Paris reste une capitale des lettres ?
Oh, je crois quand même. Alors, elle n'a peut-être pas le monopole, mais on regarde quand même, on constate chaque année qu'à la rentrée littéraire, la littérature fait la une des journaux et des médias. C'est quand même remarquable. Je suis pas sûr que dans d'autres pays, ce soit exactement ça. Et à l'intérieur de ça, alors c'est mal vu de le dire, mais la France est quand même très centralisée. Il y a encore énormément de maisons d'édition qui sont à Paris les plus grandes le sont. Il y a évidemment de beaux contre-exemples avec Actes Sud, mais enfin voilà. Non, Paris reste une ville profondément littéraire, elle est traversée de toute une histoire littéraire, mais elle reste, et ça c'est le propos du festival, aujourd'hui encore, tissée de littérature.
Alors au petit jeu des citations, j'ai repéré une phrase, une citation de Walter Benjamin qui disait « Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse la Seine ».
C'est beau.
C'est beau. C'est beau, ça ouais. Vous plaît, ouais. Ça vous semble juste encore aujourd'hui?
On a envie d'y croire.
Alors nous allons parler de cette 12e édition qui se déroule dans une quinzaine de lieux et notamment à la Maison de la Poésie que vous dirigez. Et tout commencera mercredi avec vous, Olivier Arlambon, avec une soirée autour de votre livre intitulé « Comment lire des livres qu'on ne comprend pas ». Alors c'est un titre très aguicheur qui sent quand même, je trouve, un peu la publicité mensongère. Est-ce que vous garantissez l'efficacité de la méthode ?
Absolument pas, vous avez tout à fait raison. Non, méthode, je n'avais pas prétention à faire méthode, non seulement en commençant à lire, mais même quand tu as débuté l'histoire qui est relatée, c'est-à-dire quand moi je me suis attaqué aux lectures philosophiques, qui étaient tout à fait nouvelles pour moi, j'avais absolument pas... à ce moment-là, l'idée même de la moindre stratégie, je me suis heurté à une difficulté. Et j'ai juste fait avec ce que j'étais à cette époque-là, et j'étais grosso modo quelqu'un qui avait passé 10 ans de sa vie, ses 10 ans de jeunesse à faire du sport à haut niveau peut-être, à plein temps en tout cas. Et j'ai donc, devant la difficulté des textes, j'ai fait avec ce que j'étais, c'est-à-dire principalement un corps qui fonctionnait pas mal, et je me suis spontanément organisé comme tel, devant la lecture.
Et donc ce livre, c'est pour dire, ne soyons pas complexés devant les livres, même les plus difficiles, on peut y arriver.
Alors c'est pour dire ça, par exemple, oui, alors on peut y arriver, en effet, il faut y mettre un bémol, c'est-à-dire on peut pas, à mon avis, y arriver tout le temps et tout seul, c'est-à-dire qu'il me paraît quand même, pour être tout à fait honnête, difficile de se lancer dans la lecture de Spinoza sans être un peu accompagné. Mais en tout cas, il s'agit de ne pas céder à cette dimension d'intimidation que vous imposent certains textes. Parce que ce serait se priver de grandes satisfactions et peut-être de changements importants.
Alors, le temps d'aller puiser dans les livres que nous tous, un jour, avons laissé tomber parce qu'ils nous tombaient justement des mains. Je compose un petit 06 pour notre chronique ailleurs. Bonjour Eva Taris.
Bonjour.
Responsable de la médiathèque de l'Institut français de Rabat au Maroc, vous organisez cette semaine une nuit de la poésie. C'est la première fois ?
Pour moi, oui, mais pour l'Institut de Rabat, c'est la 4e édition.
Et vous en attendez quoi ?
Moi, j'en attends beaucoup parce que on a quand même assez souffert de ce confinement et il était temps de faire un événement public, que les corps soient en présence. Et je sais que pour les artistes, c'est très important, et pour le public, c'est exactement la même chose. Là, on est déjà complet.
Il y a une longue tradition de la poésie arabe, mais aussi de jeunes auteurs-autrices, comme Fouad Chardoudi ou Rim Battal, que vous avez mis à ce programme de la Nuit de la Poésie. Est-ce que ce sont des découvertes aussi pour le public marocain ?
Fouad Chardoudi est assez connu au Maroc. Quant à Rim Battal, elle est connue, mais c'est l'une des premières fois où elle pourra être face à un public. Donc ça va être une rencontre importante, je pense, avec la jeunesse marocaine, surtout que je trouve qu'elle a une poésie qui est magnifique, qui est une poésie engagée, féministe, et je pense qu'elle est très attendue à Rabat, en tout cas.
La poésie se lit, se dit, s'imprime au Maroc ?
C'est plutôt des éditeurs qui sont la plupart du temps en France. Par contre, elle est très présente. Je pense que c'est pour ça que cet événement a beaucoup de succès ici. Parce que la poésie est partout dans la culture marocaine, dans les chants notamment, dans la chanson. C'est à la fois un cri. Vous avez toute la tradition de la haïta qui est très présente. C'est pour ça qu'en dernière partie, on aura le cabaret Chirat, où là, ce seront des hommes qui reprendront le chant des femmes. Vous avez aussi tous les chants autour du Meloun, où là, c'était plus une poésie un peu plus lettrée, mais en derija, et qui était réservée aux hommes. Et là, cette fois-ci, ce sera Touria Draoui, qui est une grande cantatrice marocaine, qui le chantera avec son mari Abdel Azrika. Donc on est vraiment dans des notes omniprésentes, en fait. C'est vraiment très palpable au Maroc. La poésie est partout. Après, est-ce qu'elle est lue et publiée ? C'est peut-être plus compliqué.
Vous l'avez évoqué, vous finissez cette nuit de la poésie par le cabaret Chicat, c'est-à-dire donc un groupe de chanteurs queer et transgenres. Alors, depuis Paris, ça semble un peu provocant, tant la société marocaine semble corsetée et les droits LGBT bafoués.
C'est du transgressif joyeux, le cabaret Chicat. C'est un groupe de comédiens qui reprennent... les chansons des Chirats, qui sont les premières poétesses marocaines qui ont chanté, qui se sont rebellées contre la colonisation aussi, qui avaient mauvais genre, entre guillemets. Mais après, c'est très joyeux, c'est très festif. La société marocaine est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Je pense pas qu'il y ait de la subversion ou de la transgression. On est plus là dans un esprit festif où tout le monde est à la lisière de quelque chose. C'est ça qui m'intéressait dans cette nuit, en fait. C'est qu'on est dans un autre espace, en fait.
Merci Eva Taris et belle nuit poétique donc ce samedi. Merci. 13 à l'Institut français de Rabat.
Merci à vous.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier, et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Georges Brassens, chanté par Barbara Carlotti, Saturne, c'est sur RFI, et ce sera au Carreau du Temple le 19 novembre, dans le cadre de votre festival, Olivier Chaudançon, Paris en toutes lettres. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements pour le 100e anniversaire de Brassens. Comment inventer un nouvel événement qui ne ressemble pas aux autres ?
Nous, on est parti d'un ouvrage, le livre de Sophie Delassin, Brassens à 100 ans. Alors, il y a un aspect biographique, et puis elle a demandé à la scène musicale française de témoigner, de dire en quoi Brassens était important pour eux. Voilà, donc on suit le fil de cet ouvrage et on a en effet convoqué quelques artistes que nous aimons beaucoup. À côté de Barbara Carlotti, il y aura Laura Cahin, il y aura Clou, il y aura Joseph d'Anvers, la grande Sophie. Voilà, mais on suit le fil de l'ouvrage parce qu'en effet on part toujours d'un livre.
Alors dans votre programmation, je parle de la programmation du festival, il y a des hommages à quelques monstres sacrés, il y a une soirée, un moment consacré à Proust ou un autre à Flaubert, mais il y a quand même beaucoup beaucoup d'auteurs ou d'autrices contemporains, dont Olivier Aran-Lambon, à qui l'on doit un court essai percutant, Comment lire des livres qu'on ne comprend pas. C'est un essai qui est aussi une déclaration, enfin aussi, ou surtout peut-être, une déclaration d'amour à la lecture.
Ah oui, absolument. Absolument. La lecture est sans doute quelque chose qui me fascinait depuis petit, avec quoi j'entretenais des rapports ou peut-être un petit problème de légitimité et qui n'est sans doute pas sans lien, par défaut, j'allais dire, avec la carrière sportive que je me suis choisie. J'ai presque choisi de fuir la lecture tellement elle me fascinait, elle m'intimidait. Et de la même façon, mon histoire avec le sport n'a pas été... n'a pas été univoque. Elle a été un peu paradoxale, faite d'amour et de douleur. Et puis, j'ai fini par m'accepter comme lecteur petit à petit. Mais là encore, il m'a fallu des efforts, bien après avoir raccroché mon vélo, en l'occurrence.
Oui, cette carrière sportive, c'est un peu plus de 10 ans comme cycliste quasi professionnel, oui, qui vous occupe en tout cas pratiquement,
oui,
quotidiennement.
Oui, qui m'occupait. Coutume de dire que je vivais un peu comme un artiste de cirque. J'étais un de ces amateurs élites qui vont de course en course pour gagner 3 sous et en tout cas qui vivaient autour de ça, à défaut d'en vivre vraiment.
Ce qui provoque quelques métaphores assez sportives dans cet essai que vous écrivez, puisque vous dites que la lecture c'est comme une aventure amoureuse, qu'il est question de jouissance, etc. Mais que c'est aussi de l'escalade en descente. Ça veut dire que c'est pas très simple.
C'est pas simple du tout. Alors, je ne sais pas si c'est. Enfin, ça n'a pas été simple du tout pour moi. Je ne sais pas si ça peut l'être pour quelqu'un de mieux armé que moi, si ça l'aurait été, si j'avais choisi un autre chemin. Mais enfin, il a fallu j'identifie les difficultés du lecteur, et ça sur le tard, parce que j'ai commencé à lire sérieusement, j'avais 30 ans. Et encore, je dis sérieusement, j'avais même un peu plus que ça.
Et c'est la troisième fois que vous apprenez à lire, dites-vous, dans ce livre.
Oui, en
quelque sorte. La première fois, comme tous les gamins, vers 5-6 ans.
La seconde fois, je reprends plaisir à lire, ayant raccroché mon vélo et vivant une espèce de période de transition un peu douloureuse et assez floue. Et la troisième fois, c'est à l'occasion, je prends officiellement des études de philosophie. Et je souhaite écrire mon mémoire de maîtrise sur cette... c'est-à-dire, pour moi, la philosophie a été une occasion de donner du sens à cette expérience sportive un peu étrange qui en manquait, donc donner un sens rétrospectif. Et alors, j'ai souhaité écrire autour du corps et de la phénoménologie du corps pédalant. Et voilà, donc je me suis attaqué, j'ai pas eu le choix, à la lecture de Merleau-Ponty. C'est ce que je raconte dans ce petit texte qui se veut autant un amusement qu'une méthode. Et plus un encouragement qu'une méthode.
Donc Merleau-Ponty vous arrive dessus, j'ai envie de
oui,
dire. Vous achetez le livre, vous l'ouvrez, et dès la première page, vous vous endormez.
Le mur.
Oui. Le mur. Ça commence assez mal quand même, les études de philosophie.
Ça commence assez mal. J'étais très désireux néanmoins, et c'est ça qui m'a sauvé évidemment. Mais l'expérience paradoxale de la lecture, c'est qu'on peut suivre mot à mot un texte et puis s'apercevoir au bas de la page qu'on n'a rien compris. Et c'est ce que j'appelle l'escalade en descente, c'est qu'il faut reprendre la page par le haut et puis y progresser à nouveau. Jusqu'à déclencher quelque chose d'un peu... Alors, c'est-à-dire, à la fois, il faut déployer un effort volontaire très, très, très méthodique et très décidé, et puis accepter que, finalement, le sens apparaît quelquefois, se dégage de façon un peu magique, en tout cas, pas du tout maîtrisé, quoi.
Et il faut faire attention à son corps, parce que vous dites que lire, c'est une affaire de cerveau, mais c'est aussi une affaire de muscles et de tendons qui doivent être ajustés, et vous définissez dans ce livre les règles quasi physiques que l'on doit adopter pour lire, et ça rigole pas.
Non, ça rigole pas. En tout cas, ce sont les règles que je me suis donné moi, parce que ce texte qui me repoussait, qui m'intimidait. Quand on est intimidé, c'est d'abord la timidité, c'est une expérience corporelle avant tout, et ça marche autant en présence d'un texte que d'une personne. On a tendance à faire marche arrière, et moi, il fallait que je me force à me coller en face de ce texte, et puis que je le, oui, en face, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je me suis appliqué à m'aligner sur la pliure du livre et j'ai retrouvé sans doute des réflexes qui étaient les miens comme cycliste, cette espèce d'obsession de la symétrie du corps.
Expliquez la position des mains, de la tête.
Je raconte comment j'ai fait en tout cas.
Oui, et puis 2 heures de lecture en principe, voilà. Pas plus, pas moins, mais avec des pauses et 20 à 30 minutes.
Bah voilà, on se donne un petit programme, on s'y tient et puis on accepte que certaines fois ça marche et que d'autres fois ça marche moins bien. Et ça c'était une expérience athlétique pour moi, c'est-à-dire qu'on se donne seul ou avec son entraîneur des plans d'entraînement qu'on suit à la lettre et qu'on adapte un peu au jour le jour, sachant que quelquefois on ressort d'une séance un peu déçu et que ça n'a pas marché comme on voulait, que les sensations n'étaient pas bonnes, disent les sportifs qui parlent beaucoup de leurs sensations. Voilà. En tout cas, mais j'ai découvert que beaucoup a été écrit sur le rôle du corps dans la production du langage, dans la production poétique ou je sais pas quoi, mais dans la réception d'un texte. Il faut faire avec son corps. Évidemment, le cerveau, c'est du corps. Mais moi, comme je connaissais surtout mes muscles, j'ai commencé par là. Je me suis contraint, voilà.
Donc, Olivia, alors, vous achetez ce livre de Merleau-Ponty. Le premier soir, vous vous endormez. Et finalement, quelques jours plus tard, vous tombez amoureux de Maurice.
Oui, absolument.
C'est dit comme ça, hein.
Oui, c'est dit comme ça. Et puis, c'est pas tout à fait faux. Enfin, je veux dire, en plus, je suis allé voir, évidemment, à quoi il ressemblait, puisqu'on trouve des, c'était quand même l'époque de la photographie, Merleau-Ponty, hein. La phénoménologie de la perception, c'est un texte de 45. Voilà. Donc, mais je suis tombé assez vite, je dois dire, parce que il y a cette expérience d'une langue qui est notre langue maternelle et à laquelle on peut néanmoins ne pas comprendre grand-chose, contrairement aux premières apparences. Et puis, petit à petit, quand les moments de sens se dégagent, on devient familier de cet auteur. Et puis surtout, quand c'est quand même pas n'importe qui, en l'occurrence, Merleau-Ponty, on était ébloui. Moi, j'ai vécu je le dis très naïvement, de vrais éblouissements. C'est-à-dire, je vivais comme un luxe. J'ai assez rapidement vécu comme un luxe ces soirées où je me contraignais à travailler parce que j'avais l'impression de fréquenter les grands esprits. C'est quand même, c'était de la chance pour moi.
Alors, on va faire un petit exercice pratique avec un son d'archive que nous avons trouvé de Maurice Merleau-Ponty parlant de citron.
Si, après avoir examiné l'espace, nous considérons les choses qui le remplissent, et si nous interrogeons là-dessus un manuel classique de psychologie, il nous dira que la chose est un système de qualités offertes aux différents sens et réunies par un acte de synthèse intellectuelle. Par exemple, le citron est cette forme ovale renflée aux deux bouts, plus cette couleur jaune, plus ce contact frais, plus cette saveur acide, etc. Cependant, cette analyse nous laisse insatisfaits, parce que nous ne voyons pas ce qui unit chacune de ses qualités ou propriétés aux autres, et qu'il nous semble cependant que le citron possède l'unité d'un être dont toutes les qualités ne sont que différentes manifestations. L'unité de la chose demeure mystérieuse.
L'unité de la chose demeure mystérieuse. Olivier Chaudançon, vous qui avez lu le livre d'Olivier Arlambon, est-ce que tout cela vous semble absolument transparent ?
C'est limpide.
C'est limpide, limpide.
Franchement, il n'y a pas besoin de répéter à nouveau l'unité de la chose. Non, non, on y est.
Olivier Arlambon, que comprendre de ce qu'il dit ? Qu'apprendre de Merleau-Ponty et de la phénoménologie ?
Qu'apprendre Moi, j'ai appris, je crois, d'abord, est-ce que je cherchais. Je crois qu'il faut arriver, pour avoir une chance de comprendre un texte, il faut quand même arriver avec des questions, des questions sincères à lui poser. Alors, j'ai appris, bien sûr, je peux pas dire que j'ai pas appris de Merleau-Ponty, mais j'ai surtout vérifié des choses que j'avais plus ou moins vécues. Et puis peut-être aussi que je cherchais des prétextes à légitimer une expérience qui n'avait pas été très heureuse, c'est celle de ma carrière sportive. Et ce qu'on apprend à la lecture de Merleau-Ponty et de la phénoménologie de la perception et de ce qui vient d'être dit avec l'exemple du citron, c'est ce qu'il appelle la spatialité originaire du corps propre. C'est-à-dire, il nous explique que les choses sont devant nous, les objets sont devant nous, et notre corps, en partie, sous une certaine facette, est un objet dans l'espace, mais que le corps offre à l'être une spatialité originaire qui nous permet d'accéder au monde. Et c'est la dimension de ce qu'il appelle pré-personnalité ou anté-prédication, etc. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a permis de faire valoir mon expérience passée, parce que je me suis convaincu comme ça que l'intelligence s'enracinait dans le corps et était toujours déjà présente, et peut-être y compris même chez les cyclistes comme celui que j'avais été.
Pour comprendre Merleau-Ponty, est-ce que vous avez imité sa voix ? Parce que dans cet essai, Comment lire des livres qu'on ne comprend pas, vous dites qu'il faut rentrer finalement dans la voix des professeurs, des auteurs, pour rentrer aussi dans leurs pensées, dans leur monde.
Oui, c'est-à-dire que bon, j'allais en cours aussi, hein, et j'avais aussi des professeurs assez séduisants. Comme je crois que le rôle du professeur est évidemment très important, même si on parle là de lire à la maison. Mais c'est quelque chose qui se fait spontanément. Je crois qu'il y a le texte est difficile, on répète et on cherche cette mise à jour un peu magique, comme je le disais tout à l'heure, du sens, de la signification, qui finit toujours quand même plus ou moins par arriver. Mais il y a une sorte de travail de l'exaspération qui fait que, à force de lire sérieusement, on fatigue et puis on finit par dérailler. Et je crois que cette façon de dérailler a une valeur en soi. C'est-à-dire que, oui, il m'est arrivé de lire, de finir des soirées un peu décourageantes en lisant, en prenant toutes sortes d'accents, en m'énervant, en chantant, je ne sais pas. J'ai pas précisément imité Merleau-Ponty parce qu'à cette époque-là, j'avais jamais entendu sa voix, mais oui, il m'est arrivé d'imiter Foucault, ne me demandez pas de le
faire. Est-ce que je vois venir? Non, pas du tout. Là, c'est une émission sérieuse. La question de la voix.
Mais c'est très sérieux. C'est-à-dire qu'on peut même imiter De Funès et tout. On continue de travailler.
Vous allez me tenter à
ça.
Force, hein.
Alors je vais m'arrêter là.
Non, mais la question de la voix, je trouve ça passionnant dans votre livre, la question de la voix, de l'oralité comme étant un élément essentiel pour lire.
Oui, parce que c'est une façon de se dédoubler et de s'entendre et d'entendre de s'entendre soi-même comme un autre, hein, comme dit le titre. Et c'est une façon d'exprimer les deux, ces deux fameuses facettes du corps, c'est-à-dire à la fois l'intériorité et puis l'extériorité. C'est un détour par l'extérieur, c'est-à-dire on s'entend dans la pièce et on reçoit sa propre parole. Il y a une sorte de mise à distance là qui est assez précieuse et qui permet de s'entendre et quelquefois de comprendre, de découvrir, de s'expliquer des choses à soi-même. Alors on prend toutes sortes de postures. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait, je le confesse. On imite le prof qu'on a eu en cours. Comme les enfants ou les lycéens, j'imagine, de temps en temps quand ils sont obligés de réviser.
Olivier Chaudançon, si on veut s'approcher de la littérature, donc si on veut lire, est-ce qu'il faut aussi entendre? Parce que c'est ce que je comprends dans l'essai d'Olivier Arlambeau.
Oui, moi je pense que c'est essentiel. Cette porte d'entrée vers la littérature, c'est l'entendre. Voilà pourquoi aussi on travaille beaucoup sur les lectures. Je pense que c'est vraiment une façon de faire rentrer dans un texte, de faire découvrir un auteur.
Est-ce que c'est le même texte, celui qu'on lit silencieusement chez soi et celui qu'on entend sur une scène, comme la scène de la maison de la poésie, passage Molière?
Probablement pas, c'est une interprétation nécessairement, la sienne qu'on fait à voix silencieuse et puis celle de l'interprète qui peut être l'auteur lui-même ou le comédien. Non, c'est pas exactement la même chose.
Dans votre livre, Olivier Arlambeau, j'accroche votre nom, excusez-moi. Vous citez Merleau-Ponty, mais vous citez aussi Lacan ou le romancier Julien Gracq, dont la prose a la réputation d'être un peu ardue. Dans tous les cas, vous avez des stratégies, alors des stratégies physiques, mais vous dites qu'il faut aussi prendre beaucoup de notes, qu'il faut imiter l'auteur. Mais cela veut dire que il faut du temps pour aborder ces auteurs, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, il en faut un minimum. En tout cas, quant à quantifier ce temps et vous dire il faut minimum 2 heures de lecture par jour pour prétendre lire Merleau-Ponty, d'abord j'en serais bien incapable et en plus il me semble que ce serait décourager pas mal de gens. Ce que je crois, c'est qu'il faut absolument par contre se contraindre et organiser des séances de lecture, encore une fois, dans une disposition très volontariste.
Vous parlez de petites tortures quand même.
Oui, de petites tortures. C'est pas petite torture quand ça marche pas, c'est comme le vélo. Il y a des jours où on dit aujourd'hui je pédale carré, c'est que ça va pas. Mais c'est aussi la petite torture, c'est à vite fait de se retourner en grand plaisir.
Et donc vous citez Björn Borg, après avoir cité Merleau-Ponty et Lacan, que vous transformez en auteur de haïku alors qu'il est plus connu comme joueur de tennis, en disant la balle est ronde, le jeu est long.
Oui. J'en avais d'autres, j'avais Ronaldo aussi. Les buts, c'est comme le ketchup, ça veut pas sortir et puis ça vient tout d'un coup.
Et donc ça pourrait être le sous-titre de votre livre, par exemple.
Pourrait, oui, absolument.
Donc ça demande ténacité quand même.
Oui, ça absolument, ça demande ténacité, désir surtout. Désir, mais c'est vraiment, c'est un désir qui s'élimine pas comme ça, c'est-à-dire qui renaît sans cesse. Mais donc, comment dire, la récompense est à la hauteur. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'émerveillement. Je le répète, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que on se sent plus intelligent par moment quand on a compris, la fin d'un chapitre. Le sens se ramasse et on comprend ce que Maurice a voulu dire. C'est très gratifiant.
Olivier Chaudançon, lisant cet essai, est-ce que vous l'avez mis en œuvre pour comprendre des livres, parce que ça nous arrive à tous, des livres que vous n'auriez pas compris?
Non, alors là, j'ai pas eu le temps d'appliquer la méthode parce que c'est un livre que j'ai découvert relativement récemment, mais je vais en prendre de la graine.
En tout cas, il n'y a pas de hasard à ce qu'il soit à l'ouverture de ce festival Paris en toutes lettres.
Oh, bon, le clin d'œil nous paraissait assez sympathique. Après, c'est vrai que je me suis aperçu qu'on avait mis la barre un peu haut, parce qu'on va avoir aussi une séance sur la physique quantique, expliquée par Étienne Klein, accompagnée par le guitariste Olivier Mélano. Non, mais tout ça, c'est très facile. Il suffit de se laisser prendre par le flux de la lecture.
Oui, et puis le bonheur du désir. Voilà. Parce que quand même, c'est cela qui compte, si je vous ai bien lu. Merci beaucoup, Olivier Arlambon. Comment lire des livres qu'on ne comprend pas est publié chez Premier Parallèle. Et on vous retrouve ce mercredi à la Bibliothèque historique de la ville de Paris pour le premier jour de ce festival Paris en toutes lettres. Merci, Olivier Chaudançon, Pascal Paradou, Nicolas Benita, Louise Calédèque.